Bon, on continue notre étude sur la théologie réformée systématique. On est à la deuxième leçon. On avait regardé la semaine dernière la théologie surtout sur l'angle académique. Maintenant, on va regarder cette semaine la théologie comme étant une discipline spirituelle. On va regarder cinq choses à l'intérieur de la leçon. La première idée qu'on va examiner, c'est la théologie, une définition plus précise. Donc, la semaine dernière, on avait donné un début de définition, mais là, on parle plus de théologie systématique. Alors, on va élargir et préciser ce qu'on entend par la théologie, si on veut la définir plus précisément. La deuxième idée qu'on va regarder, est-ce que la théologie est une science ou sagesse? La troisième, la théologie, est-ce quelque chose de théorique ou de pratique? La quatrième, on va regarder le développement qu'il y a eu de la théologie dans ce qu'on appelle la période prémoderne. Et aussi, la cinquième et dernière idée, ça va être la théologie systématique. Quelle approche on se doit d'utiliser pour que ça soit bien fait? Alors, bien entendu, on est persuadé de la grande valeur de l'éducation académique en général et en théologie en particulier. Cependant, nous devons nous rappeler que la poursuite du savoir pour lui-même comporte de graves dangers, y compris celui de détruire notre propre âme. Alors, on va aller regarder un verset, des versets qui parlent de cette idée-là. 2 Timothée, chapitre 2. Versets 14 à 16. Rappelle ces choses, protestant devant le Seigneur, qu'on évite les disputes de mots qui ne servent à rien, mais pervertissent ceux qui écoutent. Efforce-toi de te montrer éprouvé devant Dieu, comme un ouvrier irréprochable, dispensant avec droiture la parole de la vérité. Mais évite les discours profanes et vains, car ceux qui les tiennent tombent toujours plus dans l'impiété. Alors, pour interpréter et appliquer correctement la parole de Dieu, le théologien devra travailler diligemment et honnêtement. Il doit réaliser que son objectif ultime est de plaire à Dieu et le glorifier. On sait que les Juifs s'émerveillaient des enseignements de Jésus. Ils étaient conscients que Jésus n'avait pas été éduqué dans les écoles rabbiniques de l'époque. On voit dans Jean 7, par exemple, les versets 14 à 18, vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Et les Juifs étaient étonnés et disaient, comment cet homme connaît-il les Écritures, ne les ayant point apprises? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est digne de foi et il n'y a point d'injustice en lui. Donc Dieu le Fils est venu avec la révélation surnaturelle de Dieu le Père. Aucun homme ne peut découvrir ces vérités par déduction rationnelle ou par observation empirique. Dieu doit les révéler à travers Christ. Par conséquent, l'œuvre de l'apprentissage de la vraie théologie biblique est plus qu'une entreprise intellectuelle. Elle requiert la foi en Christ, la soumission à la volonté de Dieu et la poursuite de la gloire de Dieu. Donc, on va regarder le premier point, la théologie, une définition plus précise. Le but de la théologie, c'est d'amener celui qui l'étudie à une relation avec Dieu par le moyen de la médiation de Christ. On va regarder dans le chapitre 3 de Philippiens, versets 7 à 11. Mais ces choses qui m'étaient un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Bien plus, je regarde toutes choses comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui j'ai perdu toutes choses, et je les regarde comme des ordures, afin que je gagne Christ, et que je sois trouvé en lui, ayant non point ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice de Dieu par la foi, afin que je connaisse Christ, et l'efficace de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. La théologie vise donc à accomplir ce pourquoi l'homme a été créé, glorifier Dieu et jouir de son éternelle présence en obéissant à la volonté de Dieu par sa grâce en, par et pour Christ. Donc l'objet visé, c'est Dieu, son obéissance, sa gloire. La médiation va se faire par la personne de Christ. Et l'objectif, c'est d'arriver à vivre pour Dieu. La Bible elle-même, les Saintes Écritures, peuvent nous rendre sages à salut. On va regarder le passage de 2 Timothée, chapitre 3, versets 15 et 16. Et que dès l'enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent t'instruire pour le salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Johannes Polyander, donc c'est un théologien qui a vécu entre 1568 et 1646, qui était un théologien calviniste néerlandais, donc hollandais, et auteur de nombreux ouvrages de théologie, a offert une définition complète de la théologie dans son ouvrage « Synopsis of a Pure Theology ». Voici ce qu'il dit. Nous définissons la théologie comme la connaissance ou la sagesse des choses divines que Dieu a révélées aux gens de ce monde à travers les ministres de sa parole, inspirés par l'esprit prophétique et qu'il a adapté à leurs capacités pour les conduire à la connaissance de la vérité qui s'accorde avec la piété et les rendre sages pour leur propre salut et la gloire éternelle de Dieu. Alors, après avoir mentionné d'autres définitions, Joel Beakey, qui est l'auteur de l'ouvrage principal sur lequel nous nous basons pour ces leçons, lui, il offre une définition lui-même. Alors, il dit, en résumé, « Nous pouvons définir la théologie comme la connaissance et la sagesse, faisant autorité, révélée dans la parole de Dieu, concernant Dieu, afin que nous puissions vivre joyeusement pour lui à travers Jésus-Christ. Elle fait autorité parce qu'elle repose sur la parole de Dieu. C'est la connaissance et la sagesse parce qu'elle informe l'esprit de certaines vérités et dirige la vie. Il se rapporte à Dieu, non pas dans le sens étroit de la doctrine de Dieu, mais au sens large concernant la nature, la volonté et les œuvres de Dieu. Il vise à produire une vie centrée sur Dieu. Et cela vient à nous par Jésus-Christ et nous amène à Dieu par le Christ, car il est le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Alors, dans les notes, il y a la citation exactement où on le. Alors, ceux qui auront les notes pourront aller voir dans les volumes si jamais ils veulent vérifier. Deuxième idée qu'on va regarder, c'est que la théologie, est-ce une science ou est-ce sagesse? Lorsque l'auteur qu'on vient de citer, Polyander, définit la théologie comme la connaissance ou la sagesse des vérités divines, il a abordé un débat de longue date sur le genre ou la classification de la théologie. Est-ce une science ou une sagesse? La difficulté s'amoindrit dès que nous définissons clairement notre terminologie. Le mot science a un sens bien défini lorsque nous parlons de phénomènes naturels ou de lois physiques qui manifestent des effets et qui peuvent être mesurés et testés en laboratoire, comme par exemple la physique, la chimie, la biologie et bien d'autres sciences. Dans la Bible, les mots connaissance ou science sont utilisés en parallèle l'un avec l'autre, soit pour parler d'une habileté technique concernant un métier ou l'habileté de vivre une vie pieuse et bénie. Alors, dépendamment du contexte, le mot peut être utilisé, comme on dit ici, une habileté technique concernant un métier ou autre chose, mais aussi ça peut être utilisé dans le sens de l'habileté de vivre une vie pieuse et bénie. Alors, juste une observation, c'est que la Bible distingue la connaissance de la sagesse. Par exemple, nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 8, « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. » Donc, on voit que dans l'intérieur du même verset, on parle de parole de sagesse et parole de connaissance. Alors, selon l'usage dans la Bible, la sagesse peut faire référence à une habileté ou une capacité dans un métier ou dans un champ de connaissances, mais plus généralement à l'approche globale de la vie d'une personne. Alors, on parle de la sagesse peut avoir deux sens différents. La connaissance ou science, c'est plus la recherche de la bonne interprétation de la révélation divine en faisant les inférences logiques. Cette connaissance vient de la Bible et de la richesse de la relation entre la créature et le créateur. En réalité, quand on se pose la question, est-ce la sagesse ou est-ce une science? En réalité, c'est les deux. La sagesse biblique inclut la connaissance ou la science selon sa définition théologique. La sagesse est plus large parce que comprenant l'habileté holistique de vivre avec intelligence et joie pour la gloire de Dieu. Troisième idée qu'on va regarder, la théologie, est-ce quelque chose de théorique ou de pratique? La théologie mène-t-elle vers la contemplation seulement ou n'exige-t-elle pas la mise en pratique également? Il ne s'agit pas pour le croyant de choisir entre la contemplation, donc l'admiration sans limite de doctrines infiniment profondes comme la Trinité ou la prédestination, et le choix de voir uniquement des aspects pratiques de la théologie. Alors, faut faire attention aux deux extrêmes. On ne doit pas étudier la théologie uniquement dans le but de la contemplation, mais elle n'est pas exclue, mais aussi elle ne doit pas se contenter d'uniquement d'aspects pratiques. C'est vraiment les deux. Nous devons de connaître Dieu d'une manière qui engage tout l'être, la tête, le cœur et les mains. Jérémie chapitre 9, versets 23 et 24. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Donc la connaissance ou la science et la mise en pratique sont connectées ensemble et sont inséparables. On a une confirmation de ça dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même, Jean chapitre 13, verset 17, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » On a aussi le verset 1 de Tite 1. « Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. » Alors, l'orientation de la théologie est à la fois théorique et pratique, parce que la théologie oriente vers Dieu. La théologie est enseignée par Dieu, enseigne sur Dieu et conduit à Dieu. La théologie ne consiste pas en une théorie stérile et vide, mais en une science pratique qui stimule puissamment la volonté humaine et toutes les émotions du cœur pour adorer Dieu et aimer son prochain. Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu le Père, la connaissance de Dieu le Fils, et bien sûr, le Saint-Esprit est inclus. Quatrième point, la théologie systématique, son développement prémoderne. Autrement dit, la question est de regarder ici comment la théologie systématique moderne est venue à se développer au cours de l'histoire. Donc, il y a comme deux facteurs principaux qui ont contribué au développement de la théologie systématique. Le premier facteur, c'est le désir et la volonté permanente de l'Église d'approfondir la révélation divine en Jésus-Christ. L'Église a voulu explorer la signification et les implications de ce trésor de vérité. On lit par exemple dans Hébreux chapitre 1, les versets 1 et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Donc, le premier facteur du développement de la théologie systématique, c'est le fait que les chrétiens ont voulu approfondir ce qui concerne Dieu et les doctrines en général. Donc, il y a le côté de volonté de s'instruire. Et il y a aussi un deuxième facteur qui a contribué à développer la théologie systématique, ce sont les attaques de Satan sur les enseignements de la Bible, dans le but soit de les nier, de les déformer ou de les corrompre et d'en introduire des faux. Les chrétiens ont dû développer la défense de la vérité et la correction de l'erreur. On va aller regarder deux passages qui nous parlent de ce fait-là. 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 3. « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. » Donc, on parle ici que, dans les derniers temps, les esprits séducteurs et les doctrines de démons vont, par les faux docteurs, vont s'introduire dans les églises, d'où le besoin pour les chrétiens d'avoir développé une étude systématique dans le but d'être capable de réfuter et de corriger ces erreurs. On a aussi un autre passage dans 1 Jean, chapitre 2, verset 18 à 23. « Petits-enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu dire que l'Antichrist vient, il y a maintenant plusieurs Antichrists par où nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis d'entre nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais c'est afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part du Saint, et vous connaissez toutes choses. Je vous ai écrit, non pas que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et que nul mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Donc, le développement de la théologie systématique s'est fait sous ces deux fronts-là. Donc, le désir et la volonté des chrétiens d'approfondir les enseignements de la Bible sur plein de sujets, et aussi la volonté de vouloir se défendre contre les attaques du malin qui voulait introduire des erreurs dans la volonté. Alors, il nous montre un petit peu, l'auteur a voulu, je suis sûr que dans le volume, ici, il va un petit peu plus en profondeur, mais ici, c'est juste de regarder comment ça s'est fait. Ça s'est fait graduellement. Ça a commencé dès la période apostolique, et après, on va juste regarder un petit peu rapidement comment ça a pu se développer au cours de l'histoire. Alors, on peut prendre l'exemple du début du développement de la théologie, alors que plusieurs apôtres étaient encore vivants. Par exemple, le Concile de Jérusalem, dans Acte 15, versets 1 et 2, et versets 5 à 11. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs montraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Alors, à partir du verset 5, on voit le développement de tout ça. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger d'eux l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'était engagée. Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de Dieu et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il ne fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Maintenant, donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Alors ici, on avait commencé un début de problème qui nécessitait que les gens chrétiens de l'époque, surtout les anciens, s'assemblent pour discuter comment on pouvait régler un problème naissant. Bien sûr, ceci était à l'époque qu'on pourrait appeler apostolique. Mais ensuite, il y a eu la période des pères de l'Église. Là, ça pourrait aller, disons, de à peu près des 100, 180, 150, aller jusqu'à les années 800 à peu près. Donc, il y a plusieurs exemples. On pourrait aller dans les détails, mais ça, je pense que ça ne donnera pas grand-chose. Donc, il y a eu Origène, qui a vécu de 185 à 254, Cyrille de Jérusalem de 310 à 386, Augustin de 344 à 410, Jean de Damas de 675 à 649, et ici on pourrait allonger beaucoup la liste. L'idée, c'est tout simplement de nous montrer qu'à travers les siècles, il y a toujours eu des chrétiens qui voyaient les problèmes, qui voyaient la nécessité de bâtir un régime, c'est-à-dire un credo, une confession de foi, une façon de comprendre les choses par leurs écrits ou par des confessions de foi, des credos. Ensuite, on pourra prendre toute la période qui a suivi, la période médiévale, le Moyen Âge, donc qui irait grossièrement de l'an 1000 à l'an 1300, quelque chose comme ça, 1300, 1400. On peut prendre juste trois exemples, Pierre Lombard, Thomas d'Aquin, Bonaventure. On ne rentre pas dans les détails de ça. Dans le fond, l'idée, c'est juste de montrer que ça s'est développé au cours de l'histoire. Après ça, il y a eu, durant toute la période de la Réforme, Martin Luther, Philippe Melanchthon, Ulrich Zwingli, Heinrich Bullinger et bien d'autres qui ont aussi contribué au développement de la théologie systématique et aussi de l'apologétique, qu'on pourrait dire. Et aussi, il y a eu toute la période de la pensée réformée et des puritains. On va prendre uniquement un exemple, mais qui a eu une influence énorme sur le développement de la théologie. William Perkins, je suis en train de me procurer l'ensemble de son œuvre, donc c'est vraiment énorme. Alors, il a eu, lui, une influence très importante sur les puritains à l'époque, et il continue d'avoir une influence même de nos jours. Alors, c'était un gars qui a vécu entre 1558 et 1602. Et bien sûr, après la période de la Réforme, il y a eu, dans tous les siècles subséquents, amené jusqu'à aujourd'hui, il y a eu toujours le développement de la pensée chrétienne, soit pour instruire le peuple de Dieu, soit pour défendre des erreurs du malin. La cinquième et dernière idée qu'on va regarder, c'est la théologie systématique, son approche. Alors, différentes approches peuvent être adoptées pour organiser les sujets d'une théologie systématique, dont deux sont le modèle trinitaire et le modèle rédempteur historique. Comme nous l'avons vu, de nombreuses systématiques anciennes sont nées d'une longue méditation sur le symbole des apôtres, ou qu'on appelle le credo des apôtres. Le credo suit une structure essentiellement trinitaire, basée sur l'histoire rédemptrice. Dieu le Père et la création, Dieu le Fils et les accomplissements de la rédemption, et Dieu le Saint-Esprit, et l'application de la rédemption à l'Église, se terminant par sa résurrection et la vie éternelle. Les formulations les plus anciennes des principaux points de foi chrétienne de l'Église primitive sont en général appelées des symboles. La première confession de foi établie au sein du christianisme a été le symbole de Nicée-Constantinople en l'an 325. Elle a été établie afin de résumer les fondements de la foi chrétienne et protéger les croyants des fausses doctrines. Ces deux symboles seront complétés par le symbole d'Athanas, écrit sans doute au VIe siècle. Ces symboles anciens sont dits écuméniques, car ce sont des confessions de foi reconnues par la très grande majorité des chrétiens. Ensuite, il y a eu diverses dénominations chrétiennes qui ont été issues du protestantisme et du christianisme évangélique, qui ont à leur tour publié des confessions de foi comme base de la communion entre les églises d'une même dénomination. On peut prendre quelques exemples. La confession de Schleitem, qui était une confession anabaptiste, 1527. La confession d'Augsbourg, qui était luthérienne, 1530. La confession de foi calviniste, 1537. La confession de foi de La Rochelle, calviniste également, en 1559. Les 39 articles qui d'inspiration des Anglicans, anglicanisme, 1562. Il y a eu la confession des remontrants, l'arménianisme, en 1621. Confession de foi baptiste de 1644. Confession de foi de Westminster, qui était presbytérienne en 1647. Confession de foi de Savoie, qui était surtout pour les églises congrégationalistes en 1688. La confession réformée baptiste de Londres, qui est celle que nous, on adopte, en 1689. Et il y a eu aussi du côté des pentecôtistes la déclaration des vérités fondamentales des associations de Dieu en 1916. Et bien sûr, ici, on ne rentre pas dans les détails, c'est plus large et c'est plus détaillé que cela. Mais ça nous donne une idée qu'au cours des siècles, il y a toujours eu cette volonté de résumer les principales vérités bibliques pour que les chrétiens puissent comprendre et avoir des moyens de se défendre aussi. Lorsque c'est... Alors, bien entendu, beaucoup de livres de théologie systématique ont été écrits autour de ces confessions de foi. Donc, il y avait les confessions de foi, qui étaient le document qui unissait les chrétiens de diverses dénominations. Mais bien entendu, il y avait des théologiens qui écrivaient des théologies systématiques et des traités d'apologétique pour, selon les deux besoins qu'on avait identifiés au départ, soit instruire le peuple de Dieu ou soit se défendre des attaques du malin. Ici, nous, vu qu'on se base sur les quatre volumes qui s'appellent Reform Systematic Theology de Joel Bickey, lui, il propose une approche qui étudie la théologie sous 8 principales divisions. Alors, dans son volume 1, on est en train de l'étudier cette partie-là, qui s'appelle Revelation and God. Alors, à l'intérieur de ça, il y a ce qu'on appelle les prélogomènes, qui vient du grec pro et legen, qui signifie chose dite avant. Autrement dit, c'est dans la partie qui précède le développement d'un manuel de théologie. Souvent, ce sont des choses qui sont dites au début et qui concernent des questions préliminaires sur la théologie et aussi la doctrine de la parole de Dieu. Et il y a aussi ce qu'on appelle la théologie proprement dite, qui comprend la doctrine de Dieu, incluant les décrets de Dieu, la providence, les anges et les démons. Donc ça va faire partie de notre étude à nous, et on va demeurer là-dedans au moins pour une cinquantaine de leçons. Ensuite, dans le volume 2, qui va s'appeler « Men in Christ », donc « L'homme et Jésus-Christ », c'est divisé comme en deux. « Men », donc en théologie, l'étude de l'homme, on l'appelle l'anthropologie. Donc c'est la doctrine de l'homme, de sa création à l'image de Dieu, de l'alliance avec Adam et la chute de l'homme dans le péché et la misère qui s'en est suivie. Ensuite, on a la christologie, qui est la doctrine de la personne et de l'œuvre de Christ, incluant l'alliance de grâce, les offices de Christ, son incarnation, son humiliation, son exaltation pour accomplir la rédemption. Et on a le volume 3, qui est déjà sorti, lui, et qui s'appelle Spirit and Salvation, donc le Saint-Esprit et le salut. Donc, l'étude du Saint-Esprit en théologie, on lui donne normalement le nom de pneumatologie. Donc, c'est la doctrine du Saint-Esprit, sa personne et son œuvre, en et à travers l'histoire de la rédemption, incluant l'empouvoirment, en anglais c'est empowerment, de l'humanité de Christ et de l'Église pour les missions. Et l'autre partie, donc si on parle du Saint-Esprit, la pneumatologie, mais le troisième volume va comprendre aussi la sotériologie, qui est l'étude de la doctrine du salut, donc l'application de la rédemption par le Saint-Esprit pour la conversion, la croissance et la glorification du peuple de Dieu. Et le quatrième volume, qui n'est pas encore sorti, qui se pourrait sortir en 2023, ici j'ai marqué Christ and the Last Things, donc l'Église et les choses de la fin. Mais c'est pas, moi j'ai mis ce titre-là parce que c'est le sujet qui dit qu'il va développer, mais le titre officiel, vu qu'il n'est pas sorti, ça peut être modifié. Donc le quatrième volume va comprendre l'ecclésiologie. L'ecclésiologie, c'est la doctrine de l'Église et les moyens par lesquels Dieu applique la grâce à son peuple, comme la parole de Dieu et les sacrements. Et ensuite, la dernière partie du volume 4, ça va être l'eschatologie. L'eschatologie, c'est la doctrine des choses de la fin, comme la mort, le retour de Christ pour juger le monde et amener le royaume de Dieu dans toute sa gloire, incluant le ciel et l'enfer. Alors, il fait la remarque suivante dans son volume. Il dit, cette approche a ses limitations parce que tous les sujets des quatre volumes sont intimement reliés les uns aux autres. La révélation de ces sujets a une nature organique, c'est-à-dire que la discussion de tous ces sujets se réfère obligatoirement aux autres doctrines. Tout doit contribuer à la gloire de Christ. Donc, je vois 3 applications de notre brève étude de la théologie comme une doctrine spirituelle. La première, c'est l'étude de la théologie systématique est extrêmement profitable et très remplie de bénédictions. Par elle, nous développons notre connaissance de Dieu et elle nous conduira à vivre pieusement et joyeusement pour le Seigneur et pour sa gloire. Implorons le Seigneur de nous accorder la grâce d'aimer étudier la théologie systématique. Prenons la décision dès aujourd'hui de lui consacrer du temps et de se procurer les bouquins nécessaires. On lit par exemple dans Colossiens chapitre 3, versets 2 et 3, « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Deuxième application, l'étude sérieuse de la théologie systématique est l'œuvre de toute une vie. Ne soyons pas découragés par le nombre de pages des livres de théologie. Soyons plutôt contents que notre apprentissage ne cessera jamais, mais qu'il nous fera découvrir des vérités sublimes qui vont transformer nos vies et nous rapprocher du Seigneur. Et troisième application, commençons toutes ces choses dès aujourd'hui et demandons de la persévérance à notre grand Dieu. C'est pour sa gloire que notre grand Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit adoré, béni et exalté éternellement. Amen.